Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
La présidentielle américaine avec un peu plus d'un mois de ses élections. L'occasion de faire un bilan de la présidence Obama avec vous, John MacArthur. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, ancien reporter au Wall Street Journal et aujourd'hui directeur et éditeur de la plus ancienne revue américaine, le Harper's Magazine. Vous avez également publié L'illusion Obama en France. C'est traduit aux éditions des Arènes. Est-ce que vous pouvez nous présenter le Harper's Magazine, John MacArthur?
Le Harper, c'est une ancienne revue littéraire qui fait des grands reportages et qui a toujours été une revue de renommée du côté littérature, fiction, etc., essais. Mais de plus en plus, on est obligé de faire des reportages et des commentaires politiques pour remplir le vide qui s'est présenté avec Internet. Et nous sommes vraiment en lutte contre l'esprit de Twitter et d'Internet parce qu'on fait toujours de grands reportages, de longs articles et vous pouvez regarder dans la revue actuelle.
Voilà, je l'ai entre les mains.
Je suis très fier, par exemple, d'un reportage fait sur la crise en Yémen, où alors qu'on tue des milliers et des milliers de Syriens, on est également en train de soutenir, d'appuyer un massacre énorme fait par l'Arabie Saoudite en Yémen. Je veux faire des États-Unis, pas des Français, je ne sais pas sûr des Français quelle est leur position, mais pour décrire ce massacre, il faut quelques phrases, quelques paragraphes.
Et on trouve également John MacArthur dans ce dernier numéro du Harper's un dossier sur la présidence Obama du point de vue de sa politique extérieure, avec une première question qui vient à l'esprit. En France, pour beaucoup de gens, Obama est un bon président, c'est même parfois une icône. Aux États-Unis, et pour vous en particulier, Obama n'est pas une icône. Que reprochez-vous à cet homme? Que reprochez-vous au président?
C'est un type qui spécialise dans le symbolisme. Il est très bien avec les grands discours. Ça a tout commencé avec le grand discours au Caire. Et je vous fais rappeler qu'avant de se rendre au Caire pour le printemps arabe, il a fait escale en Arabie Saoudite pour rassurer les alliés, les copains, le royaume saoudien. Alors il a toujours mené une politique très 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 étroite, qui a respecté les traditions du Parti démocrate représenté par non seulement son sponsor principal, la machine démocrate de Chicago, mais aussi ce qu'on appelle la politique clintonienne, qui est carrément centre-droite.
Et vous trouvez, bref, qu'il est trop timide.
Trop timide, un type vraiment très bien, du côté intellectuel, qui comprend les enjeux politiques, qui aurait voulu faire la bonne chose, mais qui n'a jamais osé affronter le vrai pouvoir aux États-Unis. Et je parle là de Wall Street, mais aussi de l'ordre établi, le consensus de Washington. Alors, intervention, on frappe avec les drones, tout ça vient avant une diplomatie qui pourrait peut-être changer la donne.
On écoute un extrait d'un discours de Barack Obama où il se présente le 22 septembre 2011, vous allez l'entendre, comme le défenseur des classes moyennes.
You know what? If asking a billionaire to pay their fair share of taxes, to pay the same tax rate as a plumber or a teacher, is class warfare, then you know what? I'm a warrior for the middle class. I'm happy to fight for the middle class. I'm happy to fight for working people.
Je suis un guerrier pour les classes moyennes, John MacArthur. Vous êtes l'éditeur du Harper's Magazine, un grand magazine américain.
Mais désolé, mais il n'est pas un guerrier pour la classe moyenne. Il a trahi la classe moyenne parce que dès le début, au départ de sa campagne contre Hillary Clinton en 2008, il a promis de réformer, par exemple, l'ALENA, l'accord de libre-échange entre guillemets entre le Mexique et les États-Unis. Il n'a rien fait. Il a reculé tout de suite en arrivant à la Maison Blanche. Il a laissé tout tomber complètement le dossier du dépouillement de la classe moyenne, de la classe, ce qu'on appelle l'école bleue chez nous. Et c'est l'une des raisons que Donald Trump et il y a eu cette percée de Donald Trump et de Bernie Sanders.
On va revenir là-dessus, oui. John MacArthur, oui. Mais au moins dans le bilan, il y a quelque chose de positif, qui pourrait être en tout cas positif, c'est l'augmentation du nombre de personnes couvertes par l'assurance maladie aux États-Unis. Ça, c'est un acquis de la présidence Obama.
Ah, mais je suis d'accord, encore désolé, mais c'était un cadeau à l'assurance privée. Et on voit que ça, c'est en train de s'effondrer, le système, parce que les sociétés d'assurance se retire des marchés compétitifs d'assurance dans chaque État. C'était un projet néolibéral inventé par Mitt Romney, républicain, alors gouverneur de l'État de Massachusetts. Alors c'est très très loin de l'assurance santé à la française.
Il faut peut-être expliquer qu'en fait, à la place de la sécurité sociale, puisqu'en fait, il n'y a rien eu de tel de créé aux États-Unis, on a délégué en quelque sorte cette mission à des assurances privées qui ont donc pris des parts de marché.
Qui sont subventionnées par le gouvernement. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de pauvres gens qui aujourd'hui n'en profitent pas. Il y en a des millions. Mais ça nous a éloignés d'une vraie réforme. Et je vous jure, je connais très bien ce milieu. L'assurance privée, chez nous, c'est pourri. Et c'est vraiment corrompu. Alors, de s'allier avec l'assurance privée, c'est un grand défaut.
Sur la politique extérieure de Barack Obama, là au moins, vous n'allez pas me dire que celle-ci a été comparable à celle de George Bush.
Non, et là, je suis très content de voir cet accord avec l'Iran, par exemple. Alors c'est le meilleur côté de Barack Obama. Et là, il a résisté aux pressions des Israéliens et des Saoudiens, et en même temps, les deux lobbies les plus puissants à Washington.
Alors pourquoi a-t-il résisté, dites-vous, à ce que vous considérez comme étant deux lobbies, alors qu'il n'aurait pas résisté à d'autres lobbies ?
Parce que, encore, quand ça touche la grande finance, qui est la base du financement des campagnes électorales du Parti démocrate, là, on ne touche pas. Alors, pas question. Alors, les patrons à Chicago, le maire de Chicago, l'ensemble du Parti démocrate, c'est basé aujourd'hui sur des soulèvements de fonds, de financement de campagne donnés par des riches, par Wall Street, par des individus très très riches et par des entreprises très riches. Et encore, je reviens aux accords de libre-échange, qui ne sont pas des accords de libre-échange. Si j'étais avec un économiste classique, je pourrais vous expliquer, mais ça vaut pas la peine. Mais ce sont des accords d'investissement qui garantissent que la main-d'œuvre soit délocalisée au Mexique, en Chine, etc. Ça a beaucoup aidé les Clinton et Obama à récolter de l'argent des riches et des entreprises.
John MacArthur, comment expliquer que l'Amérique puisse passer en tout cas, d'un homme comme Barack Obama qui est un intellectuel, quand on voit par exemple ses mémoires, Les rêves de mon père, c'est vraiment un beau
livre. C'est un vrai livre, oui.
Je pense que c'est lui qui l'a écrit, parce qu'en France, souvent les politiques n'écrivent pas leurs livres, mais lui l'a probablement écrit. Comment imagine-t-on que l'on puisse passer de Barack Obama à Donald Trump, qui n'est pas un intellectuel ? Corrigez-moi si je me trompe.
Il est très loin d'être intellectuel. Mais encore, c'est le ressentiment de la classe ouvrière envers des gens comme Barack Obama qui ne cessent de parler de la classe moyenne, comment on va améliorer la situation des pauvres, etc. Et qui continuent à suivre une ligne plus ou moins libérale ou néolibérale. Et on voit bien que par exemple, le financement de sa campagne en 2008, son donateur principal, numéro un, c'était Goldman Sachs. Alors, qu'est-ce que vous voulez que les gens disent ? Ouais, voilà, c'est le champion du peuple. C'est pas le champion du peuple, c'est le champion d'une voie politique très, très prudente.
Mettons que vous ayez raison et qu'une critique de gauche de Barack Obama, par exemple, ait sa pertinence, comment expliquer qu'un homme comme Donald Trump puisse passer pour un candidat anti-establishment?
Alors là, c'est par frustration, c'est par désespoir. Et là, le fait qu'on soit horrifié par Donald Trump ne devrait pas nous arrêter, nous empêcher de comprendre que pour les petites gens, les petits blancs, celui qui a perdu. Et moi, j'ai fait beaucoup de reportages dans ce milieu. J'ai fait le grand livre sur l'aliénage. J'ai interviewé des centaines d'ouvriers au chômage. Alors, je connais vraiment ces gens. Ce sont les gens qui ont investi dans le rêve américain il y a 30 ans, 40 ans, qui travaillaient dans une usine, qui étaient syndicalisés pour la plupart, qui ont perdu leurs emplois à cause de l'ANENA ou l'accord avec la Chine. Ils sont pas des gens stupides, pour la plupart, pas des gens même mal éduqués, mais ils se voient dépouillés de leur tradition, de leur héritage industriel. On voit leur rêve d'envoyer les enfants à l'université disparaître. Et voilà ce type qui parle très bien, super intellectuel, Obama, il se sent trahi par Obama. Alors voilà, le grand Trump arrive avec son argent, sa réussite et sa critique très dure, très directe de la politique d'Obama, de Clinton. Et on s'est dit, au moins, il y a quelqu'un qui comprend.
Mais pour autant, et d'ailleurs, il y avait un article à ce sujet dans le New York Times il y a une semaine, John MacArthur, le nombre de pauvres a régressé aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui se sont sortis de la pauvreté. Il y a des règles qui ont été établies qui étaient inimaginables il y a seulement quelques années, comme l'existence d'un salaire minimum, la progression de ce salaire minimum, c'est-à-dire qu'on parle de $15 de l'heure pour bientôt comme salaire minimum. Cela, c'est un acquis de la présidence Obama et cela pourrait aller a priori à l'encontre du portrait très pessimiste que vous dressez. Mais
pardon, encore une précision, l'hausse du salaire minimum, ça, c'est dans l'État de New York et dans quelques États. Le salaire minimum au niveau fédéral est resté plat pendant des années. Et Obama n'a rien fait pour lutter pour une hausse du salaire minimum. Il en parle souvent, mais il ne fait rien. C'est comme durant le mandat des Clinton, c'était pareil. Alors, on parle bien, mais on fait rien. Alors, Trump, et là, il miroite les richesses. On se dit, voilà un type qui a réussi dans la vie, bien qu'il soit héritier, il était un héritier qui a hérité une somme considérable de son père. Il a quand même fait un bon boulot. Il sait comment se débrouiller, blablabla. Et là, comme je ne peux plus compter sur le gouvernement, je vais miser sur ce type qui parle, de façon très crue, mais au moins il dit un peu la vérité sur l'ALENA et sur la politique étrangère. Et si on peut passer à la politique étrangère pour deux secondes, c'est la classe ouvrière qui envoie leur fils à mourir dans les guerres irakiennes, etc. C'est pas la fille des Clinton, c'est pas les filles des Obama qui va faire la guerre. Et on comprend ça, c'est chez ces gens. Malheureusement, on mise sur un escroc, un type vraiment horrifiant qui exploite la peur, la rancune, la déception de la classe ouvrière.
Parlons de son adversaire.
Je parle de Trump, bien sûr. Oui,
on vous avait suivi. Oui. Parlons de son adversaire, Hillary Clinton. Oui. Son discours, c'est gauchiste, puisqu'elle devait aller dans le sens du programme de Bernie Sanders. Est-ce que celui-ci, aujourd'hui, vous satisfait, John MacArthur?
Pas du tout, parce que je sais qu'elle va retourner très vite à la politique centre-droite. Et là, c'est un fait politique. Il faut s'en rendre compte que la victoire éventuelle d'Hillary Clinton sera basée sur un soutien énorme du Parti républicain. Parce qu'il y a tellement de républicains, de riches et de républicains moyens qui sont tellement dégoûtés par la politique de Donald Trump, qui a complètement déstabilisé l'ordre établi au Parti républicain, qu'ils vont voter pour Hillary. Alors, elle sera reconnaissante aux républicains autant qu'elle est reconnaissante aux démocrates de gauche. Mais pour l'instant, elle singe un peu la politique de gauche de Bernie Sanders.
Bernie Sanders oui. a mis notamment le doigt sur un véritable problème aux États-Unis, qui est le coût des études. Le coût des études, il oblige ou bien les étudiants à avoir des parents riches ou bien à s'endetter, et si bien que ces jeunes arrivent dans la vie avec un passif, avec des dettes qui sont aujourd'hui supérieures à l'encours des dettes des cartes de crédit. Donc c'est dire oui. à quel point la question est sérieuse. Est-ce qu'il y a, selon vous, une possibilité de réformer ce système?
Oui, sûrement une possibilité, mais est-ce qu'il y a une volonté? Je ne sais pas, parce que Clinton sera probablement présidente, et je prédis sa victoire, je pense que ça sera serré, mais elle va quand même la remporter, et sera la présidente dans un gouvernement divisé comme celui d'aujourd'hui, avec le Sénat et la Chambre des représentants contrôlés par les républicains, et les républicains à droite. Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants, c'est un néolibéral, un homme de droite, de la droite, vraiment très, très...
Qu'est-ce qu'il veut ?
Il veut éliminer les taxes, les impôts, encore plus déréglementer l'économie, faire plaisir aux riches et aux entreprises. C'est l'antithèse de la réglementation et de l'intervention prônée par un Bernie Sanders. Alors, Hillary Clinton sera obligée de négocier avec un Paul Ryan. Et je ne pense pas que Paul Ryan sera très sympathique côté salaire minimum, investissement pour les étudiants, etc. Frais scolaires, c'est pas son intérêt.
Vous dites dans vos différents écrits qu'Hillary Clinton a toujours été très proche de Wall Street, des pouvoirs de l'argent de Goldman Sachs. Est-ce que cette proximité est aujourd'hui toujours aussi étroite, y compris avec son programme de gauche?
Ben, on sait que c'est toujours... Elle a pris ses distances pour l'instant. Mais on sait bien. Et je ne comprends pas pourquoi Trump ne martèle pas sur les trois discours payés à je ne sais pas combien de 675 000 dollars. En gros, les trois discours devant Goldman Sachs faits par Hillary Clinton.
Oui, parce qu'on reproche un certain nombre de choses à Hillary Clinton.
Mais alors, toutes les choses que Sanders critiquait dans la politique, dans le dossier de corrompu des Clinton.
D'avoir Trump, été avocate de Walmart.
Et de Walmart, etc.
Qui est un grand groupe de supermarchés.
Supermarchés, complètement anti-syndicat, etc. Trump a tout laissé tomber.
Bon, on a entendu en tout cas le bilan très noir que vous dressez l'actualité et de la présidence Obama. On vous retrouve vers 8h20, John MacArthur. Vous serez en compagnie de Sylvie Laurent, qui est une américaniste, qui publie un livre intitulé « La couleur du marché », où elle se livre à un constat assez sévère sur le dépassement du racisme aux États-Unis, un stade dans lequel nous ne sommes pas du tout, selon elle,